c'est un type. L'été. Un matin. Il est dans son lit. Il est dans son lit avec sa madame. Dans leur chambre. Situé dans le toit d'une maison. Au bord d'une forêt. Il fait beau, c'est un beau matin d'été qui commence. Et le type se réveille. La raison de son réveil est qu'un vrombissement particulier enveloppe l'endroit. Un petit avion à hélice survole et survole encore la forêt qui pousse juste derrière la maison dans laquelle dort le type de la blague. Le type se dit « Putain de vrombissement ! J'adore ! J'adore cette fréquence sonore particulière, toute particulière ! C'est un son parfait ce truc ! On dirait un truc total, un ventre, on dirait avec ce vrombissement qu'on est dans un ventre, qu'on vibre de concert avec un ventre géant de la taille d'une forêt. Il ferme les yeux, et entre dans un trip. Un trip provoqué par les vibrations presque électriques qui viennent du ciel. Et font trembler, électricité de ces connexion synaptique. De façon vraiment toute particulière. Il fait chaud, c'est l'été, la fenêtre est ouverte, une légère brise pénètre dans la chambre du toit, et le type entre en transe. Oh mon Dieu, quel bonheur ! Se dit-il d'ailleurs, et il a raison, car toute cette chaleur douce, sa madame qui dort toute belle à côté de lui, le vent chaud qui entre dans la chambre et apporte les bonnes odeurs de la forêt, le son doux et chaud de l'avion qui continue de vrombir pas loin, toute cette chaleur douce a en effet un côté quasi mystique. Et le type est en transe, et ça lui fait un bien fou. Et il sait pas combien de temps sa transe dure, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle dure. Qu'elle dure un bon bout de temps, tout le long, long temps que met le petit avion à hélice pour parcourir méthodiquement toute la forêt, de long en large. On se demande pourquoi. Comme une tondeuse à gazon qui ne s'arrêterait de vrombir qu'une fois toute la pelouse liquidée. Or, ce type, dans sa transe, sort de son lit, comme hypnotisé par le son de l'avion. Il s'habille vaguement, sort de chez lui et pénètre dans la forêt. Dans la forêt, il y a de l'ambiance. C'est l'été, mais il neige. D'énormes flocons blancs virevoltent partout, restent accrochés dans les branches, tombent au sol, ou alors dans l'étang là, qui fait sa vie là, parmi les arbres. Le type s'approche des flocons et se rend rapidement compte qu'il s'agit de tracts. De tracts bizarres, balancés depuis le petit avion à hélice, qui balaye méticuleusement la forêt depuis des heures. Ce qui est écrit sur les tracts n'est pas pour diminuer la transe du type, bien au contraire. Alors là, dans mon livre, en fait, je reproduis les tracts, mais qui sont écrits de façon vraiment hyper expérimentale. J'ai demandé à une amie, à moi, qui est pornolettriste, d'écrire les tracts. Et donc, c'est super dur à lire. Donc, du coup, je vous résume un peu la situation. Donc, les tracts, dans les tracts, il est mis un truc, mais c'est vraiment un résumé. Hein. Il faut faire des enfants. Il faut faire plein d'enfants. C'est super dur à lire, c'est pour ça que je mets un peu de temps. Il faut faire plein d'enfants. Dans la vie, il n'y a rien d'autre de sensé à faire que de faire des enfants. La vie, c'est la menace permanente de l'apocalypse. C'est pour ça qu'il faut faire des enfants. Car, oui, les enfants, c'est la fête. La toute grande fête de l'apocalypse du vivant. Et oui, le grand désastre rigolo et tragique de l'enfance répond au désastre chiant de la vie. Il faut du coup absolument faire plein d'enfants, beaucoup trop. Il faut que ça pète de l'enfance partout. C'est biologique. La biologie, c'est la biologie qui doit gagner. Ce n'est pas une ode à la vie, non, c'est une ode au chaos. C'est du punkisme biologique. Ce ne sont pas tant les punks qui sont punks, non, c'est la biologie qui est punk. La reproduction du vivant, c'est la reproduction du vivant qui est punk. Tout bonnement, la vie, c'est du luxe. Il faut faire des enfants, quitte après à les enterrer. C'est triste à dire, mais mieux vaut un enfant mort que pas d'enfant du tout. C'est triste à dire, mais quelle sinistrose totale s'il n'y avait pas les petits punks de l'existence qui viennent foutre le bordel avec très très peu de philosophie. C'est triste à dire, mais sans les enfants, on s'emmerde comme des rats morts. Ça, c'est ce qui est dit sur les tracts. Le type dans la blague se retrouve maintenant juste face à l'étang qui troue la forêt, là où il se tape son délire. Il voit cet étang à l'eau noire, vaseuse, gorgée de carpes et de pourriture, et il se dit, dans un coin de son cerveau non attaqué par la transe, incroyable, ces feuilles blanches des tracts qui virevoltent et tombent depuis le ciel, et propre dans l'eau de cet étang. En plus, avec cette écriture défoncée qui les barbouille, ça donne vraiment bien. On dirait une forme de fécondation cosmique. Des semences lettres qui pénètrent dans la noirceur profonde de l'étang. My God, comme c'est beau. En plus, il fait hyper chaud ici. J'adore. Je suis en transe. J'adore. Je voudrais que cet instant magique ne s'arrête jamais. Alors, dans la blague, le type reste là, accroupi au bord de l'étang. Pardon, c'est une blague un peu longue. Elle dure pas mal de pages dans mon livre, mais vous verrez, sa longueur fait vraiment partie du jeu, pas d'inquiétude. Le type est donc accroupi face à l'étang, hypnotisé par la chute des tracts dans l'eau noire, hypnotisé par l'étang fécondé, et comme happé par celui-ci. on le voit, imperceptiblement, basculer, lentement, lentement, appelé, aimanté par la noirceur maculée de blanc et de lettres, puis, soudain, le point d'équilibre est franchi et il tombe dans la soupe. Le contact avec l'eau tiède est tout à fait agréable. Des algues, des carpes et quelques tortues lui caressent les pieds de temps en temps. La transe continue, mais elle change de mode. À force de nager, elle devient énergique, sportive. Il nage à travers la couche des tracts. Il lit des tracts comme il peut. Et ça prend des plombes à cause de la transe, des mouvements de sa nage et de toute cette vase qui lui colle à ses pieds. Mais il finit par comprendre le message, l'intention, l'objectif de cette tracte. Alors, le mec se dit, Eh, mais j'y crois, moi, à ce qui est écrit là. Mais oui, bien sûr qu'il faut faire des enfants. Bien sûr qu'il faut enfoncer plein d'enfants dans l'existence. Même et surtout si c'est le bordel sur Terre. Et dans la blague, on le voit gueuler au milieu de la pourriture de l'étang dans la forêt. Il gueule en direction de l'avion qui patrouille dans le ciel. J'y crois à mort. Merci. C'est l'évidence. En avant pour la fécondation massive. En avant pour le punkisme biologique. Il hurle plein de trucs dans ce goût-là. Et ça a le don de réveiller les grenouilles, les poules d'eau et les canards qui zonent dans la place. Un concert généralisé s'installe en moins d'une minute. Une jam géante, un bœuf bien cacophonique. On ne peut plus tout public, puisque interespèce. Alors, évidemment, sur ces entrefaites, tout le monde s'en doute, eh bien, son amoureuse, qui dormait toute belle dans leur lit, là, en haut, dans leur maison, se réveille et décide d'aller faire un jogging dans la forêt. En effet, dans la blague, madame est une sportive de haut niveau, une jeune femme extrêmement énergique, extrêmement belle, extrêmement saine, extrêmement intelligente, droite et rigoureuse, ce qui, entre parenthèses, amuse beaucoup monsieur son amoureux. Hop, elle court, elle finit par delà les bruits de l'avion et de sa respiration sportive, par entendre les cris du mec dans l'eau. Hop, elle se pointe au bord de l'étang, toute sportive, intelligente et motivée. Elle jogue sur les tracts qui barbouillent le sol et la boue. Elle jogue vraiment bien sur les tracts qui barbouillent le sol et la boue. Elle jogue sur place au bord de l'étang. Elle jogue sur place et demande à son chéri chouchou ce qu'il fout là, dans l'étang, à gueuler comme un con. Et lui, il répond. Viens, rejoins-moi. Tu vas pas le regretter, darling. Enlève tes vêtements et viens voir. Et écoute l'avion aussi. Écoute ce putain de vrombissement. Pendant que tu enlèves tes vêtements et que tu nages, tu le regretteras pas. Et tant que tu y es, lis les tracts aussi. Et tant que tu y es, lis les tracts aussi, my god, il se passe un truc là. Il se passe un truc, je te jure, il se passe un truc. Bon. Elle, ça l'arrange pas trop, ce trip délirant, puisqu'il faut qu'elle s'entraîne. Mais son amoureux insiste tellement qu'elle finit par se dire « Pourquoi pas ? Après tout, nager, c'est de l'entraînement aussi, n'est-ce pas ? En plus, l'eau de cet étang a quelque chose d'érotique, je trouve. Il me montre des désirs, tiens, soudain. Les grenouilles beuglent par centaines. Les canards et les poules d'eau aussi. L'avion vrombit et les tracts tombent. Ambiance parfaite pour accompagner la madame vers son monsieur. Ils s'embrassent. et s'embrassent, se caressent, etc. Trouvent un vieux tronc d'arbre pas trop pourri tombé dans la vase sur lequel se poser, et un bon bout de temps très sensuel, très érotique plus tard, ça y est, un spermatozoïde de monsieur a fécondé l'ovule de madame. Voilà, donc ça c'était le chapitre 1, les morts rigolos. Il y a, je ne sais pas combien de chapitres, donc c'est le chapitre qui s'appelle Carpe Avion. C'est le premier chapitre de la blague. Après, le deuxième chapitre, c'est L'étang en blague. Après, il y a Notaire Noirceur, Désert Géoporno, La Révolution des Enterrements, Atelier Fin du Monde, Le Grossiste en Art et la Mort, Stagiaire Larmes Tropiques, Question Fécondation, Le Cheval, L'Anal, Le Cannibale, Enfance et Lettrisme, La Blague du Barbu, Radeau Rocker Sonde, Méduse Power, Telling Destroy, Chute Concept, et puis la To-Do List de la Révolution. Ça, c'est tout ce qui est prolégomène à la blague, et puis la blague proprement dite que j'ai écrite avec mes enfants, qui s'appelle Victor et Lucas. Et là, c'est Noël, Loup, Arme à Feu, Troupe de Voisinage, Comment Tuer un Mort, Les Parents, la Bombe et les Hommes Préhistoriques, et puis La Fête de Désenterrement. Voilà. C'est une blague un peu complexe qui se déploie sur 260 pages. Et donc, comme vous avez remarqué, il y a une question de naissance, n'est-ce pas ? Parce qu'il y a une fécondation, puis il y a une naissance, et puis il y a un deuxième enfant qui naît. Et du coup, c'est pour ça que la fin de la blague, elle a été écrite avec les enfants qui sont nés pendant l'écriture de la blague, en fait. Et du coup, pendant que je raconte cette blague, j'en profite aussi pour faire la révolution des enterrements, puisque tout le monde est d'accord là-dessus. Aujourd'hui, en Occident, les enterrements, c'est un peu... c'est la honte, quoi. C'est nul. C'est chiant comme la pluie. On s'emmerde pendant les enterrements. Et donc, j'en profite pour révolutionner les enterrements là-dedans. Alors, donc, je suis devenu entrepreneur de pompes funèbres expérimentales pour faire cette révolution des enterrements. Et du coup, pour faire un peu de com par rapport à ce nouveau business, eh bien j'ai organisé une série d'ateliers et de thérapies, de groupes, etc. Et donc là, je propose justement de vous parler d'une des thérapies de groupe que j'ai imaginées. On peut lancer le dispositif. Voilà. C'est une thérapie de groupe spéciale qui s'appelle Opération Perte Totale et qui sert à booster la vitalité, parce que quand on révolutionne le rapport à la mort, en fait on révolutionne aussi le rapport à la vie, n'est-ce pas ? Ça va ensemble. Si on révolutionne le rapport à la mort, eh bien on se retrouve plus vivant qu'avant. Et c'est pour ça que moi, j'ai pensé qu'il fallait faire une thérapie de groupe pour bagnole. Et donc, dans ma thérapie de groupe pour bagnole, les stagiaires viennent en voiture et passent et repassent sur un segment d'autoroute. Tout un travail est effectué au niveau de la vitesse et du rapport entre vitesse et circulation. Oui, vitesse, circulation... et respiration, évidemment. La grande question de la respiration est expliquée par le thérapeute de groupe au bagnole de la thérapie passant au-dessus de sa tête, étant entendu que le dit thérapeute se trouve dans un tunnel sous l'autoroute. Regardez, dit-il à ses stagiaires via un micro-cravate, regardez la forêt que vous traversez. Et en effet, se disent-ils, nous traversons une magnifique forêt, une forêt cathédrale plus précisément. C'est architectural, n'est-ce pas ? Oui, c'est architectural, mégalo ! Quelle scénographie monumentale pour notre thérapie de groupe, constatent les stagiaires Et ils ont raison. Et le thérapeute respire dans son micro. Et les stagiaires respirent avec lui au volant de leur bagnole. Tandis qu'à travers les tunnels, les joggeurs passent. Oui, les joggeurs passent et repassent. Adorent passer sous l'autoroute, traversant cette forêt cathédrale. Connectez votre pensée au jogger joggant momentanez-vous sous le tunnel. C'est le tunnel crypte de la respiration expérimentale. Oui, connectez-vous au souffle des joggeurs thérapeutes, joggant en connexion directe avec cette saloperie d'énergie, dit-il littéralement. Oui, cette saloperie d'énergie noire, responsable de l'expansion de l'univers. Il explique à ses stagiaires qu'il faut qu'ils se connectent la respiration à celle des joggeurs du tunnel, comme à l'essence brûlée des bagnoles et à l'expansion de l'univers. Il leur dit, connectez-vous à l'expansion de l'univers, connectez-vous à l'explosion originelle. L'explosion originelle, c'est la blague originelle. Explosion originelle, blague originelle. Explosion, blague. Explosion, blague. Explosion, blague. Explosion, il leur dit, venez, venez, sautez de vos bagnoles dans les ronces bordant l'autoroute, constituez-vous un corps sexy, punk, trash, bio-hardcore, ainsi qu'un mental du même acabit. Oui, une dégaine mentale du même acabit. Et dans cette dégaine mentale du même acabit, tâchez de bien vous concentrer sur le vide cosmique noir, le vide cosmique noir, oui, dark, sombre, soupe originelle de l'expansion de l'univers. Oui, l'univers est punk et c'est pourquoi il est fier de nous. Oui, l'univers s'explose, s'expulse hors de lui-même en permanence. Alors évidemment, il trouve ça sympa quand nous, on fait notre thérapie de groupe punk, trash, bio, hardcore. Oui, vous pensez bien que toute cette énergie vibratoire que vous libérerez grâce à cette thérapie sera favorablement reçue par notre ami le cosmos qui, lui, dépense sans compter ce type d'énergie, évidemment. Oui, il va sans dire que ce qui vibre dans nos corps et notre mental à ce moment-là n'est pas humain, évidemment. C'est de la monstruosité cosmique en bonne et due forme. Oui, de la monstruosité cosmique garantie sur facture. Ceci n'est pas un exercice. Il s'agit de faire péter l'humanité en nous, car l'humanité n'est rien pour nous, en tout cas pas grand-chose. L'humanité est un peu petite pour la taille et l'intensité de l'énergie qui nous frotte l'intérieur. Voilà, qui est punk, n'est-ce pas? Oui, punk dans le sens, rien à cirer, des petites manies que les humains ont que de vouloir, je sais pas moi, par exemple, habiter. Oui, habiter plus ou moins poétiquement la Terre. Mais en quoi ça concerne notre énergie punk qui est d'habiter poétiquement la Terre? Je vous le demande, moi, et je vous demande également en quoi ça nous concerne que de vouloir copuler et puis dormir calmement dans des lits. Nous, on dort aux flaques, à la boue et aux ronces, nous. Et on dort dans l'expansion cosmique, nous, évidemment. Oui, dans le rire cosmique, dans la bonne défonce du rire cosmique. C'est bien, c'est très bien, ça explose sous toutes ses formes. Dans notre thérapie de groupe, nous rions, couchés en forêt dans les ronces l'hiver, face direction le ciel gris, dont la pluie nous fait reluire les dents la nuit, plutôt que de copuler comme vous, mesdames et messieurs, les ploucs ou les bourgeois, nous entrons en transe en gueulant dans le corps de l'autre. Nous avons dans nos corps une énergie extatique trop forte que pour se perdre dans la petite mort, plouc et bourgeoise, quel orgasme. Non, nous ne sommes pas orgasmiques, nous sommes cosmiques et vous pouvez vous inscrire à nos cours. Bon, voilà, ça, c'est le genre de thérapie de groupe qu'on a inventé avec les pompes funèbres expérimentales. C'est une entreprise donc, que j'ai mis en place. Mais par contre, aussi dans cette histoire de blagues, de mots rigolos, j'ai eu l'occasion en fait de retranscrire des dialogues que j'avais menés avec des stagiaires, parce que j'ai mené un workshop, un atelier fin du monde en fait, dans le cadre du jour de ce rapport expérimental à la mort. Et donc je vous propose de lire un peu la retranscription des discussions que nous avons eues. J'arrive. Bonjour Paul, peux-tu nous expliquer pourquoi tu t'es inscrit à cet atelier ? Bonjour tout le monde, c'est un peu gênant à raconter, mais voilà. Je vis seul, j'ai pas de copine, et comme j'aime faire de beaux rêves, je prends le parti de ne pas me masturber, de façon à provoquer des pollutions nocturnes accompagnées de scènes sexuelles délirantes produites par mon inconscient. Vous devriez essayer, les résultats sont vraiment impressionnants. Depuis lors, je trouve tous les films du monde vraiment plouques, inintéressants en comparaison avec ce que mon cerveau produit au repos, boosté par ma libido en liberté. Même chose en amour. Comment voulez-vous encore avoir une relation sexuelle intéressante avec quelqu'un si vous vous tapez des orgasmes inimaginables et mystiques toutes les semaines ? Enfin, serait-il qu'un jour, j'ai eu une pollution nocturne pile pendant un tremblement de terre. La terre a tremblé pendant 1 minute 33 secondes et j'ai appris après. Et pendant tout ce temps-là, je me suis tapé un orgasme complètement délirant, d'une intensité jouissive tellement forte que j'ai vraiment cru mourir, d'autant que les images mentales qui y étaient associées entraient en résonance avec le tremblement de terre en cours, vous voyez le genre. J'ai vécu un orgasme tellurico-érotico-mystique de premier ordre et ça m'a bien fait flipper car dans le vrombissement intense, j'ai cru entendre à la fin cette phrase « La prochaine fois, je déchire tout. » Alors vous comprenez, maintenant je crois en Dieu et je suis complètement flippé à l'idée d'éjaculer. J'ai l'impression que la prochaine fois que j'éjaculerai dans une pollution nocturne, ce sera la fin du monde pour du tout vrai. Voilà pourquoi je voudrais participer à cet atelier pour exorciser mes peurs, pour affronter le danger de face, pour être prêt. Très intéressant, Paul. Je te promets que nos opérations tiendront compte de ton témoignage. Ophélie, qu'en est-il de ton côté ? Bonjour tout le monde, moi c'est Ophélie. Comme vous voyez, je suis habillé en combinaison de cuir rose et rouge, tous les jours pareil. C'est parce que le rose et le rouge sont les couleurs du crépuscule. C'est ma combinaison pour vivre le crépuscule du monde, voyez-vous. C'est aussi la couleur de l'amour, parce qu'en fait, je suis super amoureuse d'un mec, mais il est mort. Enfin, il ne faut pas le dire autour de vous, car je ne l'ai pas déclaré. Il ne voulait pas que je le déclare mort. Il m'a dit... Poupée, voici les instructions pour quand je serai mort. Suis-les à la lettre. C'est une technique de momification qui permettra que mon corps ne se mette pas à puer. Tu verras, c'est facile. J'aimerais vraiment qu'après ma mort, tu me promènes autour du monde. Qu'on fasse le tour du monde à deux avant qu'il m'implose. Oui, dit-elle, car Abdil était certain que c'était bientôt la fin du monde. Et du coup, par amour, je suis entré dans son trip. Personnellement, je suis pas trop si j'y crois, mais en tout cas, je trouve marrant de me balader en combinaison crépusculaire sexuelle avec un cadavre momifié dans une valise en pensant à la fin du monde. Voilà pourquoi je suis ici. Je vous présente Abdil. Et alors, elle ouvre sa valise et on voit un type momifié plié en deux. L'expression de son visage est hilar. C'est amusant. Chouette couple, vous deux. On tiendra compte de ton témoignage, Ophélie, c'est promis. Et toi, Maëva ? Eh bien, moi, c'est plus classique. Je suis ici parce que je tripe sur les cycles de naissance-destruction de l'univers que l'on retrouve dans la pensée indienne, Vous savez, selon les doctrines hindoues, la vie de l'univers passe par des cycles longs de centaines de milliers d'années, durant lesquels l'univers naît, puis se détériore, puis se détruit complètement, jusqu'à renaître, etc. Ce qui forme comme une respiration cosmique bien sûr, mais qui entre en résonance avec la respiration corporelle. C'est cette connexion-là que je voudrais expérimenter ici pendant l'atelier. C'est possible, vous croyez ? Mais bien sûr, Maëva, no stress, on fera ça, promis. Émir. Ouais, moi c'est Émir. Je suis ici parce que je tripe sur les pulsions de destruction qui m'habitent. Je sais pas pourquoi, mais j'ai tout le temps envie de tout casser. J'adore les loups, comme vous pouvez le voir. J'ai 10 loups là qui viennent de Russie. Il y a 3 ans, j'ai été dans une réserve là-bas. J'ai buté 3 mères et volé leur louveteau que j'ai élevé, caché dans la montagne. Après quoi, je suis revenu ici à pied avec eux. Je vous assure que quand vous dites « la fin du monde est proche, vous auriez pas un peu à manger pour moi et mes loups ?» Eh bien, les gens vous donnent ce que vous voulez. Bon, bref, je suis ici à cause de ces pulsions destructrices que j'ai. J'aimerais, par exemple, faire un élevage colossal de sauterelles. Des centaines de milliers, des milliards de sauterelles qu'on ferait s'abattre grâce au vent sur des putains de grosses villes comme dans la Bible. Alors, ou alors j'aimerais organiser des collisions en chaîne sur les autoroutes. J'aimerais organiser des collisions en chaîne sur les autoroutes en faisant baiser des jeunes sur la bande d'arrêt d'urgence pour distraire les automobilistes. Des choses comme ça. Ça vous paraît faisable ? Écoute, Émir, on verra. L'idée n'est pas mauvaise, en tout cas, mais ça manque un peu de profondeur, de perspective, je trouve. Et toi, Naïs, quel bon vent t'amène ? Ce qui m'amène, ce sont les concepts, figurez-vous. J'aimerais spéculer en acte, expérimentalement, sur l'articulation entre les concepts de monde, immonde, continence et incontinence. Selon moi, l'incontinence s'oppose à la continence comme l'immonde s'oppose au monde. Le monde, c'est ce qui tient ensemble, ce qui a de la tenue. Le monde est continent. L'immonde, par contre, c'est ce qui ne tient pas. Question d'essence, bon goût, organisation sociale, etc. L'immonde désorganise, fait péter l'organisme, et l'excès par rapport à la petite vie bien huilée de l'organe. L'immonde, c'est l'incontinence du monde. Le monde, selon le sens du mot latin « mundus », c'est un système organisationnel où chaque chose a sa place. La matière fécale est immonde parce qu'elle n'a pas sa place dans l'organisation, l'organisme du monde. J'aimerais donc vraiment travailler avec de l'immonde, avec du caca, pour réfléchir à la fin du monde. Si ce n'est pas possible, si vous n'êtes pas d'accord, je me casse. Ton raisonnement me paraît tout à fait pertinent, Naïs. Et je dirais même plus, impertinent dans sa pertinence et pertinent dans son impertinence. À part Paul, Ophélie, Maëva, Émir et Naïs, j'ai encore dans le groupe une bande de jeunes filles et garçons qui refusent de donner leur nom. Eux sont ici parce qu'ils ont été forcés par leurs parents, parce que des rumeurs ont couru comme quoi ils voulaient se suicider collectivement. On ne sait pas trop pourquoi. Bizarre de la part de leurs parents de les avoir envoyés ici, mais bon, no stress. Bon, voilà, tout ce petit monde, grâce à toutes ces sortes d'activités que, pour des raisons évidentes de copyright, je ne détaillerai donc pas ici, ni dans mon livre, ni ici, se met finalement d'accord pour organiser une exposition d'art contemporain, ayant pour titre « Fin du monde, la sextape ». Alors, je leur laisse la parole. Voici leur note d'intention. Je cite. On veut des étagères bien rangées, bien droites, avec bien rangées dessus des coquilles d'œufs. Ça fait monde, voyez-vous. Œufs monde, destroyés, coupés en deux. Et dans ces coquilles coupées en deux, ces morceaux de monde destroyés, ce qu'on veut, c'est de l'immonde. Du caca des jeunes filles vierges suicidaires parmi nous, mélangé au caca des loups d'émir. On veut triper là-dessus. Sur des œufs remplis de caca de vierges et de loups, c'est bien pour spéculer fin du monde. Alors, par au-dessus de ça, il faudra faire référence à l'Arche de Noé, qui est le véhicule avec lequel Noé traversa la destruction totale du monde pour en refaire un nouveau après. L'Arche de Noé est une graine, donc la semence de la vie future, la vie d'après le chaos destructeur total, et on veut l'équivalent dans nos œufs parbouillés de merde. On veut de la semence dans le terreau merdique de nos œufs. On veut du sperme, merde. On va faire éjaculer les jeunes mâles de la bande sur le contenu de nos œufs. Et pas pour rien. Non, ils vont arroser des graines plantées dans le caca. Des graines de radis. Classe, hein, le radis rouge et rond comme un monde en feu. Piquant, en plus, bien sexy hot, avec en plus une racine filiforme qui le fait ressembler à un spermatozoïde géant. C'est ça notre sextape fin du monde. Un truc gerbant sexe, biblique, tout va bien. Et le public, pendant le vernissage, sera surpris, car... Car le sol tremblera. On aura du tremblement de terre. On aura du tremblement de terre. On aura du tremblement de terre grâce à cette grâce à de la musique. On ne pas du tout. Grâce à la musique à infrabass super ultra noise. Les étagères se pétront la gueule sur les jambes. Ça part de qui hurleront et courront vers l'extérieur. À l'extérieur, ciel rose rouge crépusculaire, bien sûr, mais pas que, pas que, car en effet, on aura balancé des centaines de kilos de levure dans les égouts du quartier, mélangé à des centaines de kilos de colorants roses. Les gens du quartier et du vernissage fuiront donc l'écroulement de l'expo à cause du tremblement de terre en s'exposant à un raz-de-marée de merde. Un raz-de-marée de merde de la ville, un raz-de-marée de merde de la ville, monté en mousse, teinté de rose, sous un ciel rose, ambiance fin du monde, fin du monde néanmoins sexe. Le tout sera filmé, monté et vendu à la sortie, sous le titre « Fin du monde ». La sextape.